Le vicaire des Ardennes, neuvième partie. Lorsqu'il revint au presbytère, quelques larmes coulèrent sur ses joues. Et en voyant Marguerite, il dit avec un accent de douleur « Nous sommes seuls ». Puis, se rattachant à l'esprit des vieillards qui voient d'un coup d'œil tout ce qui les atteint dans les moindres détails, il s'écria « Qui me fera mes prônes ?»« Monsieur, » répéta la servante, la langue me démangeait de lui dire que je le croyais fils de madame de Raucourt et de l'évêque, et qu'alors il n'est pas le frère de mademoiselle Mélanie. Ah, le malheureux ! S'écria le curé, qui tomba dans une rêverie profonde. Cependant, notre héros s'avançait rapidement, et il arriva bientôt à Vannay. En traversant le village, il marcha plus lentement. « Que le diable emporte le prêtre !» s'écria un homme qui, les bras croisés, regardait du seuil de sa porte les deux côtés de la route alternativement, regard qui dénotait un aubergiste. Le jeune prêtre leva la tête en croyant que cette exclamation s'adressait à lui. « Et que vous ai-je fait ? » demanda-t-il à l'hôte. « Rien !» lui répondit brusquement ce dernier. Cette réponse convainquit le vicaire que l'exclamation ne le concernait pas. Alors, il s'aperçut que la maison devant laquelle il se trouvait était une auberge. Il y entra en disant « Allez, mon ami, je vais vous prouver qu'il ne faut pas envoyer tous les prêtres au diable. » L'aubergiste se dérida en voyant qu'au moins il aurait un voyageur. « En vint-il 10 ? » s'écria-t-il tourmenté par son idée. « Tout cela n'empêchera pas que l'abbé Frelu ne confesse ma femme tous les 15 jours. Mais aussi, la première fois, je lui donnerai une terrible absolution. » L'intention de Joseph était d'acheter à Vannay une voiture quelconque pour aller en poste, et il regardait dans la cour s'il n'y verrait pas quelque chose qui ressemblât à cela. Il y avait effectivement une chaise de poste, si tant est que cette ruine en méritât le nom, gisant sous un hangar. Comme il n'entrait guère dans l'esprit de l'aubergiste qu'un jeune prêtre eût besoin de voiture, il lui dit « Il faudra que je la brûle quelques jours, elle n'est plus bonne qu'à cela, et elle me rappelle trop souvent la plus grosse des pertes que j'ai faites. En tout cas, j'en pendrai le brancard dans la salle, pour qu'à chaque instant je me souvienne des 100 écus que j'ai perdus, et de prendre garde à la solvabilité des voyageurs. » Ce souvenir-là, et ma femme, ce sont 2 fiers points de côté. « Elle ne vous a coûté que 100 écus ?» dit Joseph. « Oui, » répondit l'aubergiste, « mais ma femme m'a coûté bien plus cher, et elle ne vaut pas mieux. »«
Vendez-la moi ?» répliqua Joseph.
« Ma femme ou ma voiture ?»
demanda l'aubergiste en poussant un gros rire.
« Je parle sérieusement, » répondit le vicaire. « Voulez-vous me vendre cette mauvaise carriole dont vous paraissez faire si peu de cas ?»
L'aubergiste poussa un grand soupir, et il aurait voulu reprendre ses paroles.
« Je ne ferai donc que des gaucheries, » marmotta-t-il.
Joseph examina la chaise.
« Allez, monsieur, voilà des roues qui iraient encore jusqu'en Russie. Le maréchal m'en offre 200 francs, mais c'est dommage de détruire. La caisse est bonne. » Et on ne fabrique plus de voitures comme cela. C'est du vieux temps où l'on travaillait en conscience. Quel drap, quand il sera brossé! Le cuir est vieux, j'en conviens, mais on peut l'huiler et le noircir. Donnez-moi 800 francs et je vous la vends.
Mais, mon cher, elle ne vous coûte que 100 écus.
Oui, monsieur, vous avez raison, mais il y a 10 ans que mes 100 écus donnent.
« Je vous en donne 500 francs, dit Joseph, à charge de la remettre en état de servir.
« Que ma femme fasse ce qu'elle voudra aujourd'hui,
s'écria l'aubergiste enchanté. « Je ne m'en formaliserai pas. » Il se mit à nettoyer la voiture, et pour ne pas tromper le vicaire, il tint conseil avec le charron, qui décida que la chaise pouvait encore aller. Joseph fut obligé de rester 2 jours à Vannay, car la voiture se raccommoda lentement, et la belle hôtesse fit l'aimable auprès du vicaire.
« Encore, si c'était un prêtre comme celui-là, disait son mari,
Mais l'abbé Frelu, qu'il ne revienne plus au moins. « Et ma conscience ?» disait sa femme. « Je m'en charge, » répondait-il. Enfin, la voiture fut restaurée et Joseph s'avança vers A au grand galop, car l'aubergiste avait prévenu le postillon que l'étranger ne regardait pas à la bourse. Pendant que le vicaire s'enfuyait, le marquis et sa femme, brûlant tous deux du désir de revoir leur fils, avaient dépêché Marie vers le presbytère. La nourrice arrive, et sur la porte, elle trouve Marguerite qui, les bras croisés, agitait mélancoliquement son trousseau de clés. « Bonjour, mademoiselle Marguerite !»«
Bonjour, madame Vernier. Vous voilà donc de notre côté ? Par quel hasard ?»«
Je viens de la part de monsieur le marquis et de madame inviter monsieur Joseph à passer la soirée au château, ce soir, tout de suite. »«
Ah, monsieur Joseph !» reprit l'astucieuse servante qui se sentait sur son terrain lorsqu'il s'agissait de dissimuler.
« Il paraît qu'il est bien ancré chez vous. Il va devenir cardinal, ce jeune homme-là. Ses gouvernantes seront heureuses. Et madame de Raucourt, comment va-t-elle? Et votre Michel? Et vous? Qu'a-t-il de nouveau de vos côtés?
Jognot est renvoyé, le sec m'a dit cela. »
« C'est une fine mouche que le maître d'école. Il m'a dit que c'était pour une lettre interceptée. Ah, voilà ce que c'est que de trahir des maîtres. Comment une chose comme celle-là peut-elle entrer dans la tête d'un honnête homme ?»
Marie profita d'un soupir de la gouvernante pour glisser rapidement. « Voulez-vous dire à monsieur Joseph que monseigneur et madame l'attendent ?»«
J'y vais !»
Marguerite monta et redescendit.
« Monsieur Joseph n'y est pas. Je le croyais encore chez lui. Mais non, je ne l'ai pas vu sortir. Ah, ma chère amie, on a tant de mal dans nos états. Je suis seule ici. C'est la cuisine, les chambres, deux hommes. C'est quelque chose. »
« Adieu, mademoiselle Marguerite.
Mais je m'en vais vous reconduire. »
Et la gouvernante parla jusqu'à ce que Marie fût arrivée à la grille. Le marquis et sa femme ne furent pas satisfaits de la réponse de la nourrice, et le soir se passa sans qu'ils vissent le jeune prêtre. Le lendemain, Marie fut renvoyée avec une lettre.
« Je m'en vais la lui remettre, » dit Marguerite.
Le marquis attendit la réponse. Il n'y en eut point. Troisième voyage de Marie, et cette fois, la gouvernante dit, confidentiellement et à voix basse, que monsieur Joseph était malade. Madame de Raucourt, alarmée, s'achemina elle-même avec Marie, et elle courait dans l'avenue lorsqu'un homme, habillé de noir et tortillant un chapeau qui paraissait de bois tant il était dur, se présenta devant madame de Raucourt.
« Si madame la marquise me permettait, in fandum renovare dolorem, de vendre la mèche.
Je n'ai rien, mon cher. » Et elle marcha encore plus vite.
« Vous n'êtes, madame, iactus agitae, qu'à une portée de fusil du château. Vous n'irez pas bien loin, si fas mi loquendi, si vous ajoutez foi à mes discours. »«
Adressez-vous au château de ma part. »
Et la marquise courait.
« Madame, dit Marie, c'est le magistère. »«
Ego sum, c'est-à-dire reçu par l'université. »«
Madame, dit le sec. »
Dolisunt, on vous trompe. Decampavirunt gentes. Le vicaire est parti.
À ces mots, la marquise étonnée s'arrêta tout court et elle regarda le sec avec effroi.
Que me dites-vous?
Oui, madame. Vulnus salit venis. Cela doit vous faire de la peine, mais ab ovo, du fond de mon école, j'ai vu Marie aller quatre fois au presbytère depuis deux jours. « Gallus Margaritam reperit. Marie est dupe de Marguerite. Car, vidi, j'ai vu, monsieur Joseph faire ses adieux à monsieur Gauss, et il s'est enfui pour toujours. Ce dont je n'augure rien de bon. »«
Silence impertinent !» s'écria la marquise. « Et prenez garde à vos paroles sur monsieur Joseph. S'il est à honnête, je vous... »
« Voilà le quos ego de Neptune !» s'écria le sec. «
Quelle belle traduction. S'il n'y est pas, je vous donne 50 louis pour découvrir où il est.
Madame, dans 2 jours vous le saurez.
Et le sec courut à toutes jambes.
Dux femina.
La fortune m'entraîne, s'écria-t-il.
Madame de Raucourt continua sa route vers le presbytère, où elle fut convaincue par les aveux du curé et de sa gouvernante de la vérité des paroles de Marcus Tullius le Sec.
Nous allons quitter Aunay le Vicomte en disant adieu au bon curé, à sa gouvernante, au respectable maire et à toutes les autorités constituées de l'endroit. Adieu aux aimables grisettes, dont les noms ont paru dans les premières pages de ce livre. Adieu enfin à celle que nous n'avons point voulu mettre en scène, de peur de paraître trop instruits en faisant leur portrait. Il nous faut suivre les traces du jeune voyageur.
Sa chaise de poste, traînée par des chevaux aiguillonnés par de bons coups de fouet, et par les mots sacramentels que l'abbesse des Andouillettes eut tant de peine à prononcer, l'entraînait vers A, sans qu'il s'en aperçût, car il était plongé dans une rêverie profonde. Cette rêverie fut cause, grand Dieu si l'on voulait rechercher les causes premières, que le postillon, voyant l'indifférence de son voyageur, le conduisit à l'auberge où il avait coutume d'engager chacun à descendre. Dans la grande rue d'A, chacun admire en passant les lettres d'or d'une vaste enseigne où on lit « Hôtel d'Espagne ». Ce fut dans cette maison renommée que le postillon fit entrer Monsieur Joseph. Le jeune vicaire se laissa mener dans son appartement où l'on porta officieusement tout ce qui lui appartenait. « Monsieur mangera-t-il à la table d'hôte ? Elle est très bien servie. » Et un gros banquier de Paris, arrivé depuis peu, s'y trouve on ne peut pas mieux.
« Comme vous voudrez, » répondit doucement le jeune homme qui resta pensif sur sa chaise.
10 minutes après, le postillon monta.
« Monsieur, » dit-il en chancelant, « on est honnête homme, pas vrai, ou on ne l'est pas. Voyez-vous que, voilà pourquoi, je vous rapporte votre argent en or, que je voudrais que vous vissiez double comme moi. »
Monsieur Joseph reprit le sac qu'il avait oublié dans sa voiture et que le postillon avait aperçu.
« Mon général, mon père, vous penserez au pourboire de demain, car en conscience, j'ai assez bu aujourd'hui. »
La préoccupation de Monsieur Joseph était telle qu'il lui donna une pièce de 40 francs.
« Vive tous les souverains de l'Europe !» s'écria le postillon, et il jeta son bonnet en l'air.
Comment le vicaire pouvait-il entendre et voir tout cela? Il pensait à aller retrouver Mélanie, c'est-à-dire à aller habiter une maison voisine de la sienne, et sans qu'elle en fût informée, à jouir tous les jours de sa vue. Il commença par commander un habit bourgeois, et comme ses cheveux avaient repoussé sur le sommet de sa tête, que sa tonsure était presque effacée, il se flatta de n'être plus pris pour un ecclésiastique. Il était au milieu de ses réflexions lorsqu'on vint l'avertir que le dîner l'attendait. Il descendit machinalement, et machinalement se plaça juste en face du gros banquier, venu de Paris depuis quelques jours. C'était un homme qui paraissait fort riche, habillé de beaux draps noirs, portant du linge extrêmement fin et des bijoux de prix. Ses traits étaient fortement caractérisés, et il les rendait agréables par des soins recherchés. Sa barbe, toujours faite, ses cheveux plats soigneusement arrangés, ses dents d'une blancheur éblouissante, sa toilette, les bijoux qu'il portait, enfin la grâce dont la fortune entoure ses favoris, enlevaient l'espèce de crainte que son abord inspirait pour la convertir en ce respect, cette considération qu'on accorde à la richesse. Il vint avec un homme qui semblait être son associé, mais dont l'air de déférence, la mise plus simple, donnait l'idée qu'il n'était pas sur la même ligne que le gros banquier, et que le génie matériel de l'un suivait de loin les conceptions de l'autre. Malgré le soin que prenait le banquier pour donner à ses gestes et à ses discours une certaine fleur de bonne compagnie,
Il trahissait à chaque instant et son défaut d'éducation et une brusquerie innée, qui dénotait une profession guerrière. Aussi, la maîtresse de l'hôtel, ayant été jadis dans la bonne société et déchue par suite de malheur, s'apercevant que le banquier et son compagnon cherchaient à déguiser qu'ils n'étaient que de grossiers parvenus, s'amusaient d'eux et riaient sous cape. « Votre évêque est-il bon enfant ?» demanda le banquier. « Et me fera-t-il payer la convenance en me vendant sa terre ? S'il apprend qu'elle est voisine de la mienne, il va m'écorcher, comme un vaisseau marchand pris par un corsaire. Qu'en dites-vous, grosse mère ?» À ce son de voix, Joseph lève brusquement la tête et cherche à se convaincre de ses soupçons. Il vient d'entendre argot. Mais à l'aspect de tout ce qui déguise le matelot, le jeune vicaire hésite. « Monsieur a servi sur mer ? » demanda-t-il au banquier. Ce dernier regarda le jeune prêtre et, l'examinant avec une inquiétude qu'il dissimula sous un léger sourire, il répondit brièvement « Non, monsieur ». À cette dénégation, le vicaire, surpris, regarda argot, car c'était lui, avec plus d'attention, et il ne put s'empêcher de penser qu'il avait devant les yeux le chef de la conspiration qui éclata dans le vaisseau de son père. Cependant, argot montra tant d'assurance en fixant Joseph que ce dernier n'osa persister dans ses soupçons, en songeant aux caprices de la nature et en examinant toutes les circonstances par lesquelles le farouche matelot de la frégate, la Daphne, aurait pu être transformé en un riche capitaliste de la chaussée d'Antin. J'arrive à temps, car on dit que le bonhomme fait ses paquets. Mais j'ai déjà parlé ce matin à son homme d'affaires, et ce soir je vais signer l'acte de vente. Monsieur de Saint-André n'est pas encore à la mort, reprit l'hôtesse. Non, reprit argot, il ne m'a pas paru flamber, ce garçon-là. Il porte un nom que vous devez connaître, dit Joseph avec ironie, et en regardant argot d'un air inquisiteur. Sur mon honneur, jeune homme, répliqua argot en s'échauffant, vous avez juré de vous mêler de mes affaires, mais n'y mettez pas trop le nez. Je ne suis pas le prince commode. Il me semble qu'en bonne compagnie, on n'est pas si curieux.
Si c'était lui, murmura Joseph, comme je vengerai mon père.
Parlez haut, mon ami, j'aime qu'on s'explique, et si monsieur Maxandy, votre serviteur, vous doit quelque chose, apportez votre quittance. Il va vous payer.
Monsieur Maxandy n'a rien à moi que je connaisse, reprit le vicaire, et je vous prenais pour un matelot nommé argot.
Un matelot ? S'écria le banquier.
Je ne distinguerai pas un mât de misaine avec un beau pré. Que l'on me donne la cale sèche, si je sais ce que c'est qu'un hunier, un tillac, une dunette, un entrepont ou une écoutille. J'ai toujours demeuré rue de la Victoire, et je n'ai navigué que sur l'eau de la Seine. Quoique ces mariniers-là ne sachent pas grand-chose, et que leurs bateaux à vapeur ne valent pas un bon slop fin voilier, qui manœuvre sous pavillon indépendant, et court su à tout le monde entre les deux tropiques. N'est-ce pas, Vernier ? Cependant, nous nous sommes confiés à leur coquille de noix pour aller à Saint-Cloud. À propos, grosse mère, vous avez oublié le punch au rack hier soir. C'est notre lait à nous. Ça rince le gosier mieux qu'aux tisanes.
On voit que ces messieurs viennent de Paris et sont lancés dans ce qu'il y a de mieux, car la mode, le grand genre, est, en effet, de se rincer le gosier après le bal.
Vous riez, grosse mère. Prenez garde qu'on ne vous radoube. Comme une jolie frégate qu'un trop gros récif a fondu. »
À ce mot, argot et son compagnon lâchèrent un gros rire qui fit rougir l'hôtesse.
« Est-ce que ces messieurs doivent voir monseigneur l'évêque ce soir ?» demanda Joseph.
« Oui, mon cher monsieur, répliqua argot. Cela vous arrange-t-il ? »
En ce moment, Joseph pensa qu'il devait au moins aller voir son oncle, monsieur de Saint-André, et lui demander la permission de quitter son diocèse. L'amitié que ce prélat lui avait témoignée, le désir de lui présenter ses remerciements et aussi de le prévenir qu'il pouvait venger son père, si son acquéreur était Argot, le poussèrent à aller à l'évêché. Enfin, il brûlait d'apprendre de l'intendant de Monseigneur si c'était réellement Argot qu'il venait de voir, et alors de dire à son oncle de faire arrêter ce matelot sur le champ. Il arrive à l'évêché, où le concierge lui dit qu'il y a une demi-heure, Monseigneur a reçu une lettre, qui, malgré ses douleurs, l'a contraint de sortir, car il est monté dans sa voiture et s'est dirigé vers la route de N, en ordonnant, contre son ordinaire, d'aller au grand galop. Néanmoins, comme Joseph était connu de tous les gens de la maison, non pas comme le neveu de Monseigneur, car l'évêque et Joseph n'en avaient instruit personne, mais comme un homme chéri de Monseigneur, on le laissa pénétrer dans les appartements. Le vicaire s'assit sur une chaise à côté du lit de son oncle et il attendit patiemment le retour du prélat auquel il venait faire ses adieux. Le jour tombait, il faisait sombre, et Joseph, enseveli dans sa rêverie habituelle, ne prit pas garde à ce qui l'environnait. Deux hommes arrivèrent sans bruit. « Oui, mon frère, puisque ton fils a échappé, disait le premier, puisqu'il existe, je dois lui déclarer qu'il n'est pas mon fils. Joseph est, dis-tu, dans ce département. Je vais courir le voir et lui demander où est ma fille. » Le vicaire, stupéfait, sentit tout son corps transir et brûler tout à coup. Cependant, il resta immobile comme une statue. Quelle découverte ! Il se tut et écouta avec attention. C'était Monsieur de Saint-André, le brave marin qui lui avait servi de père, qui venait de parler. « Mon frère, repartit le prélat, je t'en supplie, attends pour cet aveu. Attends ma mort, elle n'est pas éloignée. » « Comment cela pourrait-il te nuire ? Joseph ne porte que ce nom dans son acte de naissance. Madame de Raucourt, ni toi, personne n'est compromis. Joseph est un orphelin né avant la pavée, et voilà tout. Tu lui laisses tout ton bien, Monsieur de Raucourt l'adopte, tout est dans l'ordre. Mais quant à moi, je ne puis pas souffrir cette supercherie. J'ai essuyé assez de malheurs sans m'en forger d'autres. » Et tout ceci en amènerait, si cela n'en a pas déjà produit. Mon premier soin, en abordant, n'a pas été de courir à Paris. Non, je suis venu te voir, et je vais chercher ma fille par terre et par mer. Mais, dis-moi, comment, par quel miracle, te revois-je? Car depuis un quart d'heure que je te tiens, la joie nous a empêchés de parler. Qui t'a pu tirer de cette île? Ah, le Seigneur le voulait! Demain, je dirai moi-même une messe d'action de grâce pour ce miracle. C'est un miracle, mon frère. Je suis le seul qui ait échappé à la faim, à la soif, et c'est un des navires anglais qui ont ôté à Sainte-Hélène, qui, par le plus grand des hasards, est venu toucher à elle. Au surplus, mes malheurs sont passés. Ce qui m'occupe, c'est de retrouver ma fille, d'être employé dans la marine et de me venger de mes brigands de matelots qui ont piraté pendant 3 ans et qui sont signalés à tous les gouvernements comme les plus infâmes scélérats. Ah, ça, tu es bien en cours, tu pourras me servir, car on a dû m'oublier, mais tout est changé. Tant mieux pour nous. Monsieur de Raucourt t'introduira à la cour, il est presque le favori. Le jeune vicaire était évanoui. En se réveillant de son évanouissement, il se trouva seul. En un seul jour, il apprenait que Mélanie n'était pas sa sœur, que Madame de Raucourt était sa mère, l'évêque son père, l'histoire que la marquise lui avait racontée, la sienne. Ces nouvelles, la barrière qu'il avait élevée entre Mélanie et lui, tout bouleversait son imagination. Il se lève. Parcourt la chambre, il voit le portefeuille du marquis de Saint-André. Il l'ouvre et lit l'acte de naissance de Mélanie, l'acte de décès de sa mère. Une idée vague que ces pièces lui seront utiles s'empare de son esprit. Il entrevoit Mélanie dans le lointain comme sa possession. Il s'empare de ses pièces. dans le but de prouver à sa sœur qu'il peut l'aimer sans crime. Puis il s'échappe par l'escalier dérobé. Il court, il vole, il arrive à son hôtel et fait demander des chevaux de poste. Il veut partir dans 6 heures pour Paris. Il veut revoir Mélanie. Il n'y a dans son âme qu'une seule idée, c'est Mélanie. C'est cette amante, pure, douce, tendre, fidèle, c'est cette sœur chérie. À voir les mouvements délirants du jeune prêtre, on le croirait en proie à une aliénation mentale. L'hôtesse et tous ceux qui l'envisagent se regardent avec étonnement et parlent entre eux du changement soudain qui s'est opéré dans le visage et dans les manières d'un homme qui, au premier abord, avait paru si froid, si sévère, si tranquille. Son délire était tel qu'il ne pouvait même pas prononcer un mot. Aussi, il est impossible de rendre les millions de pensées qui envahirent l'imagination du vicaire, depuis qu'il venait d'apprendre qu'une barrière imaginaire l'avait seule séparé de sa chère Mélanie. Il tira de son sein le portrait de son amante et le couvrit de baisers enflammés. Une ligne de plus dans son exaltation, un degré d'activité de plus dans sa pensée, et il devenait fou. Accablé par cette nouvelle, qui donnait à son existence une face toute différente, il se jeta sur son lit et s'endormit profondément. Chapitre 21. Pendant que Joseph dormait, il se passait à l'évêché une scène dont il est bien à regretter qu'il n'ait pas été témoin, car il aurait été instruit du danger que courait sa chère Mélanie. Argot Maxendi et Vernier, son complice, après avoir coulé à fond plus de 100 bâtiments marchands de toutes nations, échappèrent d'une manière miraculeuse à la mort que la justice humaine leur préparait aux États-Unis. Et voici comment. Argot et Vernier furent pris par un vaisseau américain. Conduits à Charlestown, on les condamna à être pendus avec 200 de leurs complices. Ces pirates, riches de plusieurs millions, ne purent se sauver, parce qu'aux États-Unis, rien ne peut arrêter le cours de la justice. Alors les Anglais assiégeaient Charlestown. Les forbans, honteux de mourir par la corde, firent demander à former un corps franc qui se battrait toute la journée contre les assiégeants, et ils engagèrent leur parole qu'aussitôt le siège levé, ils reviendraient, c'est-à-dire les vivants, se reconstituer prisonniers. Ils comptaient tous mourir les armes à la main. Cette bizarre proposition fut acceptée. Argot enrégimenta ses hommes, les harangua, les enivra. À toute heure, ils sortent, attaquent les assiégeants. Aussitôt qu'une batterie est établie, ils courent la prendre et l'enclouent. Et ces enragés corsaires, se présentant avec audace devant les batteries, profitaient du recul des canons qui tiraient sur eux pour monter par l'embrasure et s'emparer des pièces. La peur de mourir pendu leur fit opérer des miracles. Alors, la furie avec laquelle ils attaquèrent les Anglais forcèrent ces derniers à lever le siège. Et les autorités, convaincues que la ville aurait été prise sans le secours de ces hardis forbans, accordèrent la grâce aux 30 qui revinrent loyalement reprendre leur fer lorsque le siège fut levé. Parmi ces 30 était leur chef, Argot, et Vernier, son lieutenant, qui vivait encore. Cette leçon fut assez forte pour déterminer le farouche corsaire à songer à passer une vie tranquille. Il se déguisa pour tâcher d'échapper à la justice de chaque gouvernement, au commerce duquel il avait fait le plus grand tort, et il réussit à gagner Paris avec sa fortune. Là, il changea son nom en celui de Maxendi, et il goûta les douceurs du repos. Nous saurons bientôt la suite de ces aventures. En ce moment, il était à A pour acheter une terre que l'évêque voulait vendre. Cette terre, qui se trouvait près de la sienne, le rendait possesseur unique d'une vaste forêt au bord de laquelle s'élevait son château de Vence-la-Pavée. Il avait déjà eu plusieurs conférences avec l'homme d'affaires de l'évêque, et pendant que notre vicaire dormait, il s'acheminait à l'évêché pour signer le contrat. Lorsque l'évêque et son frère quittèrent la chambre où Joseph s'était évanoui, Ils se rendirent dans un petit salon où Monseigneur avait ordonné de servir un souper friand pour fêter l'arrivée et l'heureux retour d'un frère qu'il croyait mort. Monsieur de Saint-André, l'aîné, se mit à table à côté de l'évêque et sa première parole fut « Et par quel hasard as-tu revu ton fils ?»«
Je ne l'ai jamais questionné, de peur que ma tendresse pour lui ne se trahît, mais il paraît qu'il a essuyé de grands malheurs. » Il est venu au séminaire il y a un an et demi environ, et j'ai obtenu des dispenses pour le faire prêtre.
« Il est prêtre ?» s'écria le contre-amiral avec un geste d'effroi.
« Eh bien, qu'as-tu ? » demanda l'évêque.
« Hélas ! » répondit le marin. « Vois que de malheur notre arrangement a causé. Ton fils aimait Mélanie, il doit la croire sa sœur, et de désespoir il se sera fait prêtre. » Je les aurais unis. Maintenant, je te demande en grâce de laisser Joseph dans son ignorance, de tâcher d'avoir de lui le nom de la ville où demeure Mélanie, et sur le champ, car demain je veux repartir voir ma chère fille. Il ne l'épousera jamais, il ne le peut plus. Ah, que Mélanie doit être belle! Quel charmant sourire elle me jetait, ainsi qu'à son frère! Avec quelle joie je voyais que Joseph pouvait être digne d'elle et devenir un homme distingué. Tout est dit, mon frère. Mais que d'événements ont pu me changer Mélanie. Joseph a-t-il suivi sa sœur? Ah, quelle cruelle incertitude!
Ces paroles éclairèrent le père de Joseph, qui, devinant le secret de l'infortune de son fils, ressentit un vif chagrin. Il y eut un moment de silence, pendant lequel l'évêque, les yeux attachés sur le papier vert de la salle, pensait s'il aurait des protections assez puissantes pour faire casser les vœux de Joseph par le pape, chose presque impossible. Lorsque tout à coup, un des domestiques de l'évêque, entrant pour servir, demanda à son maître si Monseigneur avait vu Monsieur Joseph, le vicaire donné le vicomte.
« Est-il ici ? » s'écria Monsieur de Saint-André.
« Il doit y être, » répondit le domestique.
« Mon frère, » continua le contre-amiral, « vois-le, fais-le demander, mais qu'il ne m'aperçoive pas, qu'il me croie toujours son père. Puisqu'il est prêtre, nous ne lui découvrirons le secret de sa naissance que lorsque j'aurai marié Mélanie. »
« Patience, mon frère, » répondit l'évêque, « tout n'est pas perdu. »
On chercha partout le jeune vicaire. Le concierge avertit enfin qu'il était sorti, après avoir attendu Monseigneur.
« Puisqu'il est à A, » dit l'évêque à son frère, « demain matin tu sauras où est ta fille. Je ferai demander Joseph. Il m'en instruira. »
Comme Monseigneur achevait ces mots, on vint l'avertir que l'acquéreur de sa terre venait d'arriver. Il ordonna qu'on le fît attendre dans la pièce voisine.
« Comment, mon ami ? » dit Monsieur de Saint-André. Un homme qui nous apporte 700 000 ou 800 000 francs, 1 000 000, mérite bien l'honneur de se mettre à table avec nous.
Faites entrer, dit alors l'évêque à son domestique, et mettez 2 couverts, car ils sont 2, je crois.
Argot et Vernier entrèrent. Monsieur de Saint-André lève les yeux, tressaille et s'écrie.
Par ma foi, le ciel est juste, et il me dédommage tout d'un coup de mes malheurs.
À cette voix, à ce regard de Monsieur de Saint-André, l'audacieux Argot dissimula la peur qui s'emparait de lui. Mais Vernier, voyant leur perte certaine, pâlit et chancela.
« Puis-je savoir ce qui cause l'étonnement de monsieur ?»
demanda le pirate en portant la main à la poche de son habit pour tâter et s'assurer de la présence de petits pistolets anglais qu'il portait d'habitude et à toute occasion.
« Comment, scélérat ! »
s'écria d'une voix tonnante le contre-amiral.
« Tu ne reconnais pas Monsieur de Saint-André ? Et tu crois que j'ignore tes horribles pirateries signalées à toutes les cours ? Heureusement que tu ne peux plus m'échapper. »
« Monsieur, si Monsieur Maxandy, banquier, vous doit quelque chose... »
« Non, il ne me doit rien, mais moi, je lui dois un bon jugement de cour martiale et de cour d'assises. » Et monsieur le banquier Maxandy, qui n'est autre chose que le matelot Argot, finira ses jours dans un bain de fagots ou à 6 pieds de terre.
« Monsieur le contre-amiral, songez-vous qu'on ne pend pas un homme qui a 5 millions. »«
Sont-ils à toi, brigand infâme ?»
Et monsieur de Saint-André se mit à sonner à tout rompre.
« Ne sont-ils pas à tous les malheureux que tu as coulés à fond ?»«
Tiens, mon frère, tu as devant les yeux un homme qui a fait périr 3 000 hommes. »«
Vous vous trompez !»
interrompit Argot en hochant la tête.
« Oses-tu encore le nier ?»
dit le contre-amiral en fureur.
« Oh, ce n'est pas cela, je ne nie rien !»
dit le pirate avec un sourire plein de férocité. « Mais il faut rectifier votre calcul. Maintenant, c'est 3 001 !» ajouta-t-il en regardant monsieur de Saint-André, de façon à lui faire comprendre qu'il méditait sa perte. Mais monsieur de Saint-André ne le vit pas.
« Grand Dieu ! » s'écria l'évêque. « Quelle perversité !»
Et il leva les yeux au ciel.
« Mais, monseigneur, dit Argot, il serait mort de la fièvre jaune, peut-être.
« Mon frère, continua l'évêque, débarrasse-moi de la présence de ce misérable.
« Misérable !
S'écria le pirate en agitant les breloques de diamants qui garnissaient la chaîne d'or de sa montre.
« N'ai-je pas un équipage ? De l'or ? Ne suis-je pas bien vêtu ?
Un misérable ! Personne ne peut voir ma conscience. « Je l'ai noyé !»«
Bah ! »
dit-il avec un geste indéfinissable.
« J'ai fait comme tant d'autres. »«
Sors, malheureux !»
s'écria l'évêque.
« Pas avant d'avoir reçu votre bénédiction, monseigneur. Les justes n'en ont que faire. En descendant sur moi, elles ne sauraient mieux tomber. »«
Mon frère, » dit le prêtre d'une voix faible, « la vue de cet homme me fait mal. Éloignez-le, je vous prie. »
« J'en serais bien fâché, »
dit le contre-amiral, qui, depuis qu'il avait sonné, mangeait tranquillement, comme si Argot n'eût pas été là.
« Que comptes donc tu en faire ? »
demanda l'évêque, étonné de ce sang-froid.
« L'arrêter, »
répliqua le marin. Monsieur de Saint-André se leva effectivement. Il alla dans l'appartement voisin, il ordonna aux domestiques de se tenir prêts à tout événement, et il en dépêcha un pour demander main forte à la gendarmerie, car le maintien calme d'Argot lui donnait quelque inquiétude.
« Monsieur,
lui dit le pirate lorsqu'il rentra, en lui montrant sa paire de pistolets,
« voyez-vous, ceci m'empêchera désormais d'être du gibier de potence, car mon affaire d'Amérique, lorsque l'on m'a pris dans ces biscuits-là,
dit-il en remuant ses armes,
m'a instruit à ne jamais marcher sans précaution. « Écoutez-moi bien, monsieur de Saint-André. »
Le contre-amiral mangeait toujours. Argot, se retournant vers Vernier et le voyant inquiet, lui jeta un regard de pitié.
« Vernier, s'écria-t-il, où sont donc tes petits amis ? »
À ce mot, le lieutenant tira de sa poche de côté une paire de pistolets semblables à ceux d'Argot.
« Vous comprenez, amiral, que nous avons 4 coups et que l'on ne nous arrêtera pas facilement. » Mais on ne nous arrêtera pas du tout par 10 raisons. »
À ces mots, monsieur de Saint-André regarda le pirate.
« D'abord, continua Argot, personne ne vous a entendu. Si cela était, vous seriez déjà mort. Ah, vous avez beau me lancer des regards foudroyants, c'est comme cela. Personne ne nous a entendu. Par conséquent, nous pouvons vous tuer, vous et votre frère, sans bruit, sans répandre une goutte de sang. Et nous sortirions sans être arrêtés, parce que l'on nous prend pour des banquiers et des personnages, et qu'en 2 heures je suis loin.
Deuxièmement, Argot n'est pas mon nom, et avant que vous ayez rassemblé des témoins pour me faire condamner, j'aurai séduit un gardien et j'aurai la clé des champs. M'épargnerez-vous les 8 autres raisons ?
Quelle insolence !
S'écria l'évêque.
« Ce n'est pas de l'insolence, monseigneur, c'est du calcul. Et comme je suis de la bonne société, je ne me fâche pas de ce que vous me dites. Si nous étions sous la ligne, vous pourriez aller bénir les poissons, mais je suis en compagnie. Tout cela, monseigneur, n'empêchera pas notre marché. »
À ces mots, un domestique fit signe à monsieur de Saint-André que la gendarmerie était venue.
« 10thièmement, car il est temps d'en finir, je le vois. » « 10thièmement, mon amiral, vous avez une fille. »
et en interrogeant M. de Saint-André, il lui lança un regard terrible qui fit tressaillir l'intrépide marin.
« Que voulez-vous dire ? » s'écria-t-il.
« L'aimez-vous ? »
lui demanda Argot avec un sourire ironique et en secouant le jabot de sa chemise. M. de Saint-André, interdit, regarda le pirate sans répondre.
« Je vous demande, amiral, si vous aimez votre fille.
Vous voyez que, quoique arrêté, il y aura loin d'ici à mon procès et que je ne dois pas être de sitôt enterré. Mais si vous dites un mot, si vous me faites passer seulement 2 heures en prison...
« Eh bien ?»
demanda M. de Saint-André en fureur.
« Eh bien, vous ne reverrez jamais votre fille. Ne se nomme-t-elle pas Mélanie ? N'est-elle pas blonde ?»«
Comment, infâme brigand !
Abrégez, je vous prie, l'énumération de mes titres. Je ne vous appelle pas contre-amiral.
Comment se fait-il, scélérat, que tu sois destiné à me tourmenter ? Fléau de ma vie ! Oh, destiné !
N'êtes-vous pas le fléau de la mienne ? Je tiens votre fille. Vous tenez bien faiblement ma vie et ma réputation. L'affaire peut s'arranger.
Scélérat rusé !
S'écria M. de Saint-André.
Tu crois te tirer de ce pas par une fourberie ? Elle ne te sauvera pas.
Croyez-vous donc, répliqua Argot, que je ne vous aurais pas asphyxié en vous apercevant, vous et votre frère, si je n'avais pas su avoir les moyens de vous contenir ?
Ruse que tout cela !
Repartit le contre-amiral.
Il faut en finir. Tenez, amiral, lisez. Et si vous êtes bon père, laissez-moi tranquille, et convenons une bonne fois de ne plus guerroyer ensemble. J'ai une parole à laquelle on peut se fier, je l'ai prouvée. Promettez-moi de ne plus me poursuivre, et je promets de refuser l'avantage que le sort me donna toujours sur vous. »
En achevant ces mots, le pirate présenta une lettre ouverte au contre-amiral. C'était une lettre de Mélanie, adressée à son banquier.
« Monsieur, je ne puis consentir à l'union que vous me proposez, si avantageuse qu'elle puisse être. Cependant, comme vous m'avez présenté sans mon consentement à M. Maxandy, je pense qu'il serait convenable de lui faire entendre qu'il n'entre dans mon refus aucun motif injurieux pour lui. Et pour preuve de cette bienveillance, je consens à assister à votre réunion de demain. Si vous voulez avoir la bonté de m'envoyer votre voiture, je vous serai obligé, etc. Mélanie de Saint-André.
Lettre du banquier. Mademoiselle, si vous le permettez, Monsieur Maxandy se fera un véritable plaisir de vous offrir sa voiture pour venir à notre bal de demain. C'est une bien faible marque de bienveillance que vous lui donneriez, etc. William Badger.
« Eh bien !»
s'écria M. de Saint-André en regardant Argot.
« Eh bien, ma voiture était une voiture fermée qui a emmené votre fille en poste où j'ai voulu. Un de mes affidés, ancien matelot et homme expert en ces sortes d'affaires, se tenait sur le siège et payait les postillons en disant que ses maîtres conduisaient leur fille aux eaux de Vichy.
« C'est les rats !»
reprit M. de Saint-André d'une voix altérée.
Qui donc t'a suggéré de pareils desseins ? Quel était ton projet ? Quel intérêt te poussait ?
Oh, je n'ai rien de caché pour mes amis, dit Argot en s'asseyant à côté de M. de Saint-André.
Je vais tout vous dire. Mais d'abord, renvoyez les gendarmes et vos gens que j'entends près de nous.
M. de Saint-André, se couvrant les yeux avec sa main, se mit à réfléchir. Il pensa rapidement qu'il pouvait hardiment promettre tout ce qu'Argot voudrait pour qu'il lui rendît sa fille, et qu'ensuite son frère ou une autre personne attirerait la vengeance des lois sur la tête de cet effronté pirate. Dégageant donc sa tête, il fit signe à Argot qu'il y consentait, et le matelot, allant vers les gendarmes, leur dit que M. de Saint-André connaissait dans la ville un homme suspect et qu'il irait avec lui le lendemain chez le commandant de la gendarmerie. Il leur recommanda aussi de dire à leur chef d'attendre M. le contre-amiral de Saint-André. Puis, en passant près de Vernier, il lui ordonna d'aller sur le champ faire viser leur passeport, de demander des chevaux pour minuit et de revenir aussitôt. Alors Argot regagna la chaise voisine de celle de monsieur de Saint-André et lui dit avec un sang-froid égal à celui du contre-amiral, qui s'était remis des grandes émotions qui venaient de l'agiter.
« Monsieur, lorsque je revins à Paris il y a 10 mois, je fis la connaissance de monsieur William Badger, honnête garçon que je sauvais d'une banqueroute. Pour me payer du service que je lui rendais, il me conseilla de me marier, en me disant qu'avec une fortune telle que la mienne, j'ai 5 millions, monseigneur, je devais avoir une femme pour m'aider à jouir de la vie. Il ajouta qu'il connaissait une jeune fille à laquelle on rendrait un véritable service en la mariant, qu'elle était venue depuis 5 ans de l'Amérique, qu'elle était belle et riche, car c'est lui qui, par une heureuse entreprise, lui avait décuplé ses fonds, qu'elle ignorait le monde, vivait seule, chagrine, et qu'un bon vivant comme moi la réjouirait. Je ne suis pas beau, mais je suis, vous le voyez, nerveux, fort bien portant. J'ai de bonnes épaules et je n'engendre pas de mélancolie. Je consentis. Lorsqu'il me nomma mademoiselle Mélanie de Saint-André, une secrète joie s'éleva dans mon âme et je la déguisai. En effet, monsieur, vous êtes mon plus cruel ennemi. Vous seul en France pouvez me trahir, car presque tous vos officiers doivent être morts et mes complices aussi. N'était-ce pas un coup de maître que de devenir votre gendre? Votre fille ne voulut pas. D'ailleurs, ne pouvant fournir votre acte de décès, il fallait le concours de son frère. Il m'aurait reconnu. À Paris, les officiers marieurs ne sont pas faciles à tromper. J'ai donc fait faire un acte de notoriété, constatant que 2 de mes matelots vous ont vu tomber d'un coup de feu à bord de l'Atalante. Avec cet acte, j'irai dans l'endroit où l'on a conduit Mélanie. Là, avec quelques sonnettes, je ferai accroire tout ce que je voudrai au maire, et je deviendrai votre gendre. J'adore votre fille. Elle est gentille, il faut en convenir.
Rendez-la-moi, Argot, dit monsieur de Saint-André. Je vous jure que jamais je ne trahirai le secret de votre vie passée.
Des larmes inondèrent les yeux de l'insensible contre-amiral.
« Argot, ajouta-t-il, rends-moi ma fille. Devant Dieu, je promets de faire tout ce que tu voudras. »
« Vous n'ouvrirez jamais la bouche sur tout ce que vous savez de moi. »«
Je le jure, » dit monsieur de Saint-André avec un accent de bonne foi sur lequel il était impossible de se méprendre.
« Eh bien, » répliqua le farouche matelot avec un infernal sourire,
« je jure, foi de corsaire, de ne remettre votre fille qu'à vous-même. »«
Quand ?» demanda le contre-amiral.
« Demain soir, à 7 heures, et il faut le temps de l'aller chercher. »«
Argot, je me fie à toi, et j'oublie toute ma haine, j'abjure tout désir de vengeance. »«
Et moi, » reprit Argot, « je me fie à vous. Adieu, monseigneur. Adieu, amiral. »
Le matelot s'en alla lentement pour faire voir qu'il ne craignait rien. Il rentra et dit « Ne vous étonnez pas si je pars cette nuit, votre fille n'est pas dans les environs. » Il laissa les 2 frères ensemble. Dans l'antichambre, il rencontra son lieutenant Vernier qui avait exécuté tous ses ordres.
« Sortons, Vernier, et examinons bien les appartements par lesquels nous passerons. »
Les 2 pirates regardèrent la hauteur des croisées, l'escalier, la cour, la porte. Quand ils furent sortis, Vernier demanda à Maxendi ce qu'il voulait faire du plan de l'évêché.
« Ce que j'en veux faire, »
dit le matelot à voix basse. « Il ne faut compter sur la discrétion de personne. Je ne m'en fie pour cela qu'à la mort. Faisons le tour de l'évêché, car tous ces renseignements nous sont nécessaires. Et de la résolution, car il s'agit d'assurer toute notre existence. » Quand ils furent en face du jardin, Argot vit avec joie que les murs n'étaient pas très élevés et que les toits de l'hôtel de l'évêque étaient encombrés de cheminées. À cet aspect, Argot arrêta son plan et se rendit à son auberge. Comme il cheminait par les rues, il heurta un malheureux, âgé de 17 ans environ.
C'était un Auvergnat, et ses habits prouvaient qu'il exerçait le métier de commissionnaire et de portefaix.
Argot s'arrête. « Que gagnes-tu, mon garçon ?»
lui dit-il en l'examinant avec attention.
« Autant que vous, » répliqua le commissionnaire.
« Comment cela ?» demanda le matelot étonné de cette répartie.
« Oui, j'ai mes profits et vous avez les vôtres, »
répondit sèchement le Savoyard.
« Tu me plais singulièrement, » reprit Argot surpris.
« J'ai plus à bien d'autres. »
« Trêve de parole, » dit impérativement Vernier. « Ne fâche pas ce gros monsieur-là. »«
Mon ami, veux-tu faire ta fortune ?» demanda Maxendy.
« Certes, » répondit le jeune homme.
« Eh bien, » continua-t-il, « quelle serait la somme qui te rendrait heureux ?»«
Voyons, cherche. »«
Mais heureux tellement que tu n'aies plus rien à désirer. »«
Ah, pour cela, il faudrait que j'aie le champ à la mère Véronique. » Une maison couverte en ardoise, un jardin et des... Oh, j'aurai tout cela pour 12 000 francs. Et j'épouserai Jeannette. Oh, j'épouserai Jeannette, quoiqu'elle soit plus riche. Elle m'a dit d'aller gagner de quoi l'avoir pour femme. Oh, qu'elle serait étonnée.
Mon garçon, tu peux les gagner, ces 12 000 francs, sur le champ.
Les gagner ? S'écria l'Auvergnat en ouvrant de grands yeux.
Mais... dit-il en se reprenant. « Les gagner loyalement ?»«
Loyalement ?» reprit Argot. « Ta conscience n'aura rien à se reprocher. Mais il faut de l'adresse. Sans quoi, tu ne gagnerais que 12 sous. »«
Mais quel est ton dessein ?» dit tout bas Vernier.
« Mon ami, » continua Argot sans répondre à son lieutenant, « tu vas nous suivre. Je te donnerai un gros paquet. Tu entreras à l'évêché. Tu demanderas au domestique de te conduire à la chambre de Monsieur de Saint-André, le contre-amiral qui est arrivé aujourd'hui. Tu iras à sa chambre, tu lui remettras le fardeau, et tu auras soin d'examiner dans quelle partie de l'évêché est situé cet appariement, s'il donne sur le jardin ou sur la cour, dans l'aile droite ou dans l'aile gauche. Et si tu me rapportes ces renseignements avec exactitude, je t'emmènerai avec moi à mon château. Et je te compte, cette nuit même, tes 12 000 francs. Au moins, j'aurais fait un heureux en ma vie. Comprends-tu ?
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Et dans quel but, ces renseignements ?
Cela ne te regarde pas. Veux-tu épouser Jeannette et gagner 12 000 francs ?
Oui.
Marche !
L'Auvergnat se mit à courir.
Comprends-tu maintenant ? Dit Argot à Vernier.
« Non.
Eh bien, n'importe. »
Ils arrivèrent tous trois à l'hôtel d'Espagne, et Argot fit un énorme paquet de papier, de linge, de tout ce qu'il put trouver. Il le posa sur les crochets du petit Auvergnat, qui courut à l'évêché.
« Me diras-tu ton dessein ?»
demanda Vernier à Argot lorsque le commissionnaire fut parti.
« Cela ne se dit pas entre quatre murs. » répondit Argot à l'oreille de son lieutenant. « Ne vois-tu pas qu'il n'y a qu'une porte d'un pouce d'épaisseur qui nous sépare de l'appartement voisin, et que l'on peut même voir à travers ?» ajouta-t-il en fixant les yeux sur la porte.
Au bout d'une demi-heure, l'Auvergnat revint et donna à M. Maxendy tous les renseignements qu'il avait demandés, jurant de plus par sa Jeannette qu'ils étaient exacts.
« Je le crois. » lui dit Argot. « Mais j'en aurai la preuve. As-tu vu Monsieur de Saint-André ?»«
Non, il venait de sortir en voiture avec Monseigneur pour aller à la recherche d'un jeune homme qui était venu dans la soirée.
Attends-nous à la porte de l'hôtel. »
L'Auvergnat sortit. Argot se déshabilla et invita Vernier à en faire autant. Ils se revêtirent de méchants habits qu'ils avaient toujours pour fumer et boire le matin, et ainsi travestis, ils s'échappèrent de l'hôtel sans être vus, si ce n'est par l'Auvergnat. Argot, regardant à sa montre, vit qu'il n'était encore que 9 heures, et il mit ce temps à profit en achetant des crampons de fer et des cordes. Ils se promenèrent par la ville, et lorsque 11h30 sonnèrent à la cathédrale d'A, ils se dirigèrent vers l'évêché. Chapitre 22.
Le hasard voulut que la nuit la plus obscure protégeât l'entreprise d'Argo et de son complice. Ils arrivent derrière le mur d'enceinte des jardins de l'évêché. Vernier jeta sur un arbre un crampon en fer attaché au bout d'une corde assez forte pour supporter le poids d'un homme, et à laquelle ils avaient fait des nœuds de distance en distance. Aussitôt que le crampon eut été fixé sur des branches qui formaient une fourche par leur réunion, les deux pirates grimpèrent lestement sur ce hauban improvisé, et lorsqu'ils furent sur l'arbre, ils attirèrent à eux la corde et le paquet entier. Ils sont dans les jardins, et bientôt ils se trouvent devant la façade de l'hôtel qui donne sur le parterre. Argo mesure de l'œil cette partie de l'édifice. Et il nous a dit que cette chambre donnait sur la cour. Les deux fenêtres se trouvent les seules de l'aile gauche. Ainsi, cette aile aura notre visite. Bon, il y a une cheminée, c'est celle-là.
Mais comment arriver au toit ?
Voilà la question, le problème à résoudre, dit Argo. Et pour cela, nous n'avons qu'une heure. Il ne faut pas que les chevaux nous attendent, cela produirait un mauvais effet. On doit nous venir éveiller dans nos chambres. » En prononçant ces diverses phrases, le matelot contemplait la façade. « Es-tu léger, Vernier ? Car moi, je suis si gros maintenant que je n'oserais tenter cela.
Quoi ? »
demanda le lieutenant. « Tiens, il faudrait aller attacher la corde au balcon du premier étage, en grimpant sur les feuilles des persiennes du rez-de-chaussée. » Une fois sur le balcon, tu remontes la corde au-dessus de la persienne du premier étage, et de là au second, du second au toit. L'avancement que forme le cartouche où sont sculptées les armes, et je ne sais quoi, te donne la facilité de fixer le crampon sur le toit. Vernier hésita longtemps, mais enfin il s'y résolut. Argo, tirant d'une bague qu'il avait au doigt, une épingle empoisonnée dans la liqueur avec laquelle les sauvages se défont de leurs ennemis, la remit à Vernier pour qu'il pût anéantir sans bruit ceux qui s'opposeraient à son opération. Puis il se mit à veiller et à tout examiner pendant que le lieutenant s'acquittait de ce dont il se chargeait. Vernier parvint en effet à se placer sur le haut du cartouche et il y arrêta entre deux pierres disjointes le crampon de fer. Argo se suspendit en bas de la corde pour en essayer la solidité, et il se hissa jusqu'en haut. De là, ils marchèrent sur les toits, jusqu'à la cheminée de la chambre de Monsieur de Saint-André. Et après en avoir démoli le faîteau, Argo s'y glissa en faisant le moins de bruit qu'il put. Quand il fut à la hauteur de l'appartement, il écouta, pour découvrir par l'extrême silence si le contre-amiral était couché. Après cet examen, Argo se laissa tomber sur le foyer. Là, il écouta encore et se hasarda à regarder dans l'appartement. Monsieur de Saint-André dormait. Le matelot se lève, court et enfonce son épingle dans une artère. L'infortuné ouvre les yeux, voit Argo, il veut crier. Il expire. « Il a filé son nœud !» dit le pirate. Aussitôt il regagne la cheminée, le toit, il redescend par sa corde dans les jardins et de là dans la rue. Il est 1 heure de la nuit et les deux corsaires s'acheminent vers l'hôtel d'Espagne. Argo est aussi tranquille que s'il eût donné un coup de pied dans une bouteille vide. Son complice le suit.